Au début de la finale à la Coupe Rogers, tout à l'heure, entre Simona Halep et Sloane Stephens, je me suis dit, ouf, d'après moi, ça va être très facile pour Simona Halep, qui menait 4-1 dans la première manche. Elle a dû puiser au fond de ses énergies pour remporter la première manche 7-6 au bris d'égalité. Et là, c'est Sloane Stephens qui mène 5-3 dans la seconde manche. Donc, on se dirige vers une troisième manche entre Sloane Stephens et Simona Halep. Et pour vous dire également que chez les hommes, c'est à 16h à Toronto que ça va commencer entre Raphaël Nadal et Stefanos Tsitsipas. On va d'ailleurs parler à Hélène Pelletier un peu plus tard. Là, on va parler de soccer, l'impact de Montréal hier qui... se mesurait au Real Salt Lake en Utah. L'impact qui amorçait le dernier droit de sa saison avec 10 matchs. Là, aujourd'hui, il en reste 9. L'impact qui est reparti de là-bas avec un verdict nul de 1-1, donc un point en banque. Pour nous parler de cette partie, Vincent Destouches est avec nous. Vincent, est-ce que c'est un résultat satisfaisant pour toi, ce match nul de 1-1 hier?
Écoute, j'ai tendance à te dire oui. Et écoute, je m'excuse s'il y a du bruit derrière. Tu parlais de la finale de la Coupe Rogers. J'y suis présentement. Je peux t'assurer que c'est un superbe match, un rebondissement.
Il n'y a pas de problème.
Pour revenir au match de l'Impact de Montréal, écoute, dans une saison, tu es censé gagner tes matchs à domicile et tu es censé parvenir à aller gagner des points par-ci, par-là sur la route. Là, on s'en va dans l'Ouest. C'est des vols avec escale, c'est pas facile. En plus, c'est en altitude, à 4500 pieds à peu près d'altitude. Pas un contexte facile. Et d'ailleurs, l'un des joueurs majeurs du Real Salt Lake, qui s'appelle Albert Rusnak, a confié hier à mon collègue Nicolas Martineau que la recette du succès du Real Salt Lake à domicile, qui avant le match d'hier, c'était quand même 9 victoires, une défaite et 2 matchs nuls,
oui,
c'était justement l'altitude, le fait qu'eux maîtrisaient ce contexte et pas les adversaires qui venaient. Alors, si on met tout ça sur la table, on se dit qu'un résultat nul, c'est effectivement un bon point pris sur la route, là où d'autres des concurrents de l'Impact ont perdu hier, comme Chicago qui a perdu,
ouais,
comme la Nouvelle-Angleterre qui a perdu. Donc c'est pas mal. Reste que on est peut-être un petit peu ambitieux dans cette fin de saison où il faut accumuler des points, où l'Impact a joué quelques matchs de plus que certains de ses rivaux et qu'il y avait de la place. Hier, il y avait la place pour aller faire un résultat. Écoute, on reste peut-être un petit peu sur notre faim, mais ça reste un résultat encourageant.
Mais avec, sans Rod Fanny, entre autres, je veux dire, c'est quand
exact.
Même pas mal de sortir de là avec un point. Je veux te parler du penalty accordé au Real Salt Lake. Étais-tu d'accord avec la décision, toi?
Écoute, c'est pas le penalty de l'année, mais je te dirais que la manière dont ça s'est produit, je comprends que l'arbitrage et était tenté de donner cette faute. Parce que Ken Kroliki, déjà c'est un jeu très maladroit où Ken Kroliki part deux fois, d'abord avec sa jambe gauche et ensuite par sa jambe droite, vient contrer le ballon et le remettre dans la course d'un joueur de Real Salt Lake en pleine surface de réparation. Une fois que ça s'est fait, dans la surface, tu dois jouer intelligemment et c'est pour ça que Rod Fanny est tellement un bon défenseur, c'est que le tac ou la glissade ou ce que tu veux, ça c'est un geste de dernier recours. Encore plus dans la surface de réparation, Ken Kroliki doit trouver un moyen de défendre sur ses pieds, déstabiliser, donner peut-être un petit coup d'épaule, faire un geste défensif clé sans se compromettre. Là, il fait un geste particulièrement maladroit, donc une sorte de glissade où il vient cisailler quelque peu les jambes de son adversaire. Alors c'est pas très net comme geste, mais c'est suffisant pour mettre le doute, parce que quand on revoit la séquence, l'adversaire se vend bien le pénalty. Il se laisse tomber d'une manière, au moment parfait en plus, qui donne l'impression que c'est vraiment Kroliki qui l'a déstabilisé. Alors, moi, ça ne me surprend pas en tout cas que cette faute ait été appelée.
Okay.
Je trouve que ça aurait pu être évité.
OK. Un mot sur l'entrée en scène de Quincy Amariquois et Michael Azira. Comment tu les as trouvés, pour ce que tu as vu?
Écoute, très encourageant. C'est comme ça que je te dirais ça. Et c'est là qu'on voit que ce recrutement, même s'il ne sera peut-être pas suffisant, il est intéressant parce que ce sont des joueurs d'expérience, déjà, qui peuvent rentrer dans un match comme celui-ci après seulement un entraînement collectif et déjà apporter quelque chose. Ça a été le cas pour chacun de ces deux joueurs. Michael Azira qui rentre en remplacement de Ken Kroliki, qui n'était pas son meilleur nécessairement hier, au-delà du penalty. Il apporte un peu plus de muscle au milieu de terrain, tout simplement. Il n'hésite pas à aller au contact, lui donner ce petite dimension physique que parfois peut manquer à Ken Kroliki, qui n'a pas nécessairement une très grande stature. Et il s'est souligné en plus par un service intéressant pour Nacho Piatti, une belle ouverture qui montre qu'il a quand même aussi une palette au milieu de terrain, Michael Azira, qui peut être intéressant en remplacement, en soutien, voire même de Samuel Piatti s'il le faut. Mais c'est surtout Quincy Amariqua qui a peut-être marqué des points hier. Parce que, tu sais, Matteo Mancosu, il est resté 67 minutes sur le terrain. Il n'a réussi à tirer qu'une seule fois. Et pourtant, il s'est procuré deux situations chaudes qui, normalement, pour n'importe quel attaquant titulaire d'une équipe, ça doit se retrouver au moins un des deux au fond, ou à tout le moins qu'il y ait un tir. Et les deux fois, il a semblé trop court. Pas sur les bons appuis, pas juste techniquement, pas une bonne prise d'information. Franchement, c'était insuffisant ce qu'il a montré. Et ça montre très bien qu'à ce stade-ci de la saison, déjà d'avoir une telle incertitude au poste d'attaquant, c'est anormal, mais qu'il y a surtout un poste à aller prendre. Dommage que Jackson, dommage pour lui, qu'il soit à nouveau blessé aux ischios. Et ça laisse une chance à Quincy Amariqua, qui rentre, qui fait bien, qui fait deux tirs, un cadré, qui se montre confiant, qui apporte une certaine énergie sur le front de l'attaque. Moi, je te l'ai mentionné un petit peu hier, j'ai l'impression que lui, Amariqua, ça peut être la bonne surprise parce qu'on ne s'attend pas à grand-chose de lui. Et pourtant, il va faire peut-être une ou deux entrées en cours de match, apporter cette énergie qui fait du bien, qui est rafraîchissante et se mériter finalement un poste de titulaire. Ça me paraît faisable.
Bon, espérons-le. Un mot en terminant sur le travail d'Evan Bush. Encore une fois, il connaît une saison fantastique, très alerte devant son filet. Garde les siens dans le match, Vincent.
C'est ça qu'on demande. Dans une équipe, tu dois avoir un gardien qui parfois te vole un match ou permet en tout cas de rester dans le match, et tu dois avoir un attaquant qui va te marquer des buts alors que tu souffres, qui va te voler lui aussi des points. Là, pour l'instant, l'impact de Montréal n'a qu'un seul de ces deux joueurs, et c'est Evan Bush. Alors oui, Bush a fait un mauvais match récemment. C'est peut-être son seul de l'année. C'était à Portland, où deux erreurs individuelles ont peut-être coûté une victoire qui aurait été précieuse sur la route à l'impact de Montréal. Mais mis à part ça, il fait une superbe saison, et c'est pour ça que je vous disais dès le match nul après Portland, oubliez ça, il mérite mieux. Hier, il a fait une superbe performance, des arrêts clés, pas nécessairement faciles, et c'était un match de gardien, hein, parce qu'il faut donner du crédit à l'autre gardien aussi, Nick Wimendo, celui de Salt Lake, ouais. Parce qu'à la fin du match, c'est l'impact de Montréal qui poussait. C'est l'impact de Montréal qui était le plus proche d'aller chercher la victoire. Et il a fait notamment une superbe parade devant Nacho Piatti, une autre devant Alejandro Silva, alors que j'ai l'impression que ces deux joueurs pensaient avoir fait le plus dur. Alors voilà, c'est ça que ça prend, des bons gardiens pour faire des bons arrêts dans le dernier droit de la saison. Maintenant, il faut un peu plus d'efficacité offensive.
Vincent, merci beaucoup de ta participation. Le prochain match, donc, là, les choses se corsent. Il va rester 9 matchs. Prochain adversaire, c'est samedi prochain au Stade Saputo. Là, il faut emmagasiner les victoires, accumuler les points. Le Fire de Chicago, un adversaire direct de l'Impact de Montréal. Donc là, ça prend des résultats et plus d'excuses.
Exactement. Mais à partir de maintenant, ce ne seront que des matchs contre des adversaires de l'association Est.
Bon.
Que des matchs à 6 points. Et le Fire de Chicago, qui a perdu hier à domicile, se retrouve à 7 points derrière l'Impact de Montréal, donc à la 10e place. C'est simple. La mission de l'Impact de Montréal dans chacun des matchs qui vont s'offrir à lui d'ici la fin de la saison, c'est évidemment de gagner et d'accumuler, en tout cas de ne pas perdre, parce que à chaque fois que tu vas perdre des points, non seulement tu fais du surplace au classement, mais tu as un adversaire qui va se rapprocher drôlement. Donc face au Fire de Chicago, il n'y a qu'une seule issue, que l'écart entre les deux équipes à l'issue de ce match soit de 10 points et d'éliminer le plus possible les adversaires qui se retrouvent derrière. L'Impact va jouer contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Ils vont jouer contre Toronto. Ils vont jouer contre le Fire de Chicago. Alors, c'est des finales. C'est des 9 finales d'ici à la fin de la saison. L'Impact est encore en bonne posture. 6e place. Ils ont perdu un rang. Mais ça va être extrêmement serré. Donc, effectivement, contre le Fire, victoire ou rien.
Vincent, la beauté de la fin de notre conversation va coïncider avec le début de la 3e manche entre Simona Halep et Sloane Stephens. T'as rien perdu. Je te laisse aller. Tu vas avoir une excellente 3e manche au Stade IGA. Profites-en bien.
Merci beaucoup, Yannick.
Salut, Vincent.
Bye.
Bye-bye. Alors voilà, Vincent Destouches qui est à la Coupe Rogers pour la finale entre Sloane Stephens et Simona Halep. Début en ce moment de la 3e manche. Première manche remportée par Simona Halep, 7-6 au bris. Sloane Stephens a gagné la 2e, 6-3. Et elle sert maintenant en début de 3e manche. On vous tient au courant aux amateurs de sport week-end. Jusqu'à 17h sur l'ensemble du réseau Cogeco. On parle à Mark Griffin au retour, entre autres du fait que les Giants ont tiré hier le numéro 25 de Barry Bonds, mais aussi une date assez triste pour les amateurs de baseball à Montréal. 12 août. Rappelez-vous, en 94, on déclenchait la grève et on oubliait du même coup, possiblement, une série mondiale. À tout de suite.